Alors pour la prédication d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'histoire de Joseph, qui se trouve dans Genèse 35 à 50. Mais ça veut dire que je vais peut-être pas lire l'entier du passage, sinon ça laisserait plus beaucoup de temps pour le restant du culte. Donc je vais peut-être plutôt raconter un peu la trame d'ensemble de l'histoire, et puis il y aura un passage en particulier que je lirai quelque part au milieu. Donc déjà pour situer, Joseph c'est le fils de Jacob, puis Jacob c'est le fils d'Isaac, et puis Isaac c'est le fils d'Abraham. Donc ça veut dire que, et puis Dieu s'est adressé à Abraham, l'a appelé, l'a choisi pour en faire le point de départ du peuple de Dieu, pour en faire le point de départ de la révélation de Dieu à l'humanité. Et puis à Abraham, Dieu avait fait cette promesse: toutes les nations seront bénies en ton nom. Bon. Et puis, si on prend maintenant Jacob, bien Jacob, il a eu deux femmes et deux concubines, parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça. Et puis, dans les deux femmes de Jacob, il y en a une qu'il aimait, qui s'appelait Rachel, puis une qu'il n'aimait pas tellement, qui s'appelait Léa. Et en fait, Joseph, c'était le premier fils de Rachel, donc le premier fils de la femme que Jacob aimait. Et puis, il était né après plein d'autres fils des autres femmes de Jacob. Il y avait 10 fils plus âgés, et puis Joseph après tout ça, qui était le fils de la femme que Jacob aimait, qui était donc le chouchou. Et puis, le père se donnait même pas la peine de le cacher, il avait les plus beaux habits, et puis tout ça. Bon, et puis en plus, pour améliorer les choses, la Bible nous dit aussi qu'il racontait à son père toutes les mauvaises actions et les mauvais propos de ses frères. Donc, en plus d'être un chouchou, c'était un rapporteur, ou un redzipetteur, comme on dit chez nous. Alors, bon, à notre époque, on a tendance à considérer que rapporter, c'est pire que de faire des mauvaises actions. C'est pas forcément le cas à l'époque, c'est pas forcément le cas dans l'absolu. Je suis pas sûr qu'on puisse condamner Joseph pour avoir raconté les choses mauvaises que ses frères faisaient. Mais ce qui est sûr, c'est que ses frères, ils aiment pas ça, et puis ça les énerve. Et puis la Bible nous dit qu'ils étaient incapables de regarder Joseph avec amour. Et puis ensuite, Joseph se met aussi à faire des rêves. Et puis ces rêves montrent que les frères et les parents de Joseph vont se prosterner devant lui. Et puis, là encore, si on rajoute une couche, en plus, ce petit prétentieux, il fait des rêves qui le mettraient au-dessus du reste de la famille. Alors, je pense que ces rêves venaient de Dieu, et certains disent que Joseph n'aurait pas dû les raconter, qu'il aurait dû être un petit peu plus intelligent que ça. Mais je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire ça. S'il a fait ses rêves, ça servait peut-être un but. Mais donc, toujours est-il que c'est extrêmement déplaisant pour les grands frères. Et puis là, je suis presque tenté de dire ce qui devait arriver arriva. C'est un tout petit peu exagéré, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que les frères se débarrassent de Joseph. Donc, d'abord, ils se disent qu'ils vont purement et simplement le tuer, mais après, ils y renoncent. Ils se contentent de le vendre comme esclave à une bande de marchands qui partent en Égypte. Et puis, ils font croire à Jacob que Joseph est mort et qu'il a été tué par des bêtes sauvages. Puis donc, Joseph arrive comme esclave en Égypte. Puis là-bas, il se passe diverses choses que je ne vais pas détailler, mais ce qui se passe finalement, c'est que le pharaon, roi d'Égypte, fait deux rêves qui annoncent une grande famine de 7 ans sur toute la terre. Mais le pharaon ne comprend pas ses rêves, et finalement c'est Joseph qui va lui donner l'interprétation, qui va dire il y a 7 ans où tout va aller très bien, où il va y avoir grande abondance, mais après il y aura la famine. Et puis, si on ne s'y prépare pas, ça va effacer toutes les conséquences des bonnes années et puis ça sera la catastrophe. Et puis, donc, Joseph donne le conseil de nommer quelqu'un pour faire des réserves de nourriture pendant que ça va bien, pour tenir bon pendant la famine. Et puis, le pharaon, il se dit, ouais, c'est un bon conseil. Et finalement, qui est-ce que je vais trouver de plus sage et de plus intelligent que celui qui a été capable de comprendre ça? Et donc, il nomme Joseph comme premier ministre, comme responsable de pratiquement de toute l'administration du pays. Et puis voilà que la famine de Jacob, les frères de Joseph, ils sont aussi atteints par la famine. Ils n'ont plus rien à manger, mais ils entendent qu'en Égypte, là-bas, ben, il y a encore du blé qu'on peut acheter. Et donc les frères de Joseph viennent acheter des vivres. Et puis là, quand ils se présentent, Joseph les reconnaît, mais eux, ils ne reconnaissent pas Joseph. Et puis si on y pense, c'est assez logique parce que les frères de Joseph, ils sont toujours habillés comme une bande de bergers nomades. Donc pensez tunique, long manteau, une barbe pire que la mienne. Donc Joseph n'a pas de peine à les reconnaître. Tandis que Joseph, lui, ben maintenant, il est habillé comme un premier ministre du roi d'Égypte. Donc il est certainement rasé de près. Peut-être qu'il a un caleçon sur la tête. Et puis, ses frères ne le reconnaissent pas tout de suite. Et puis, donc, Joseph, là, il va tester un peu ses frères. Donc, d'abord, il les accuse des espions pour les forcer à amener Benjamin avec eux. Parce que, en fait, ceux qui sont venus en Égypte pour acheter des vivres, c'est les 10 grands frères, les 10 mêmes qui l'ont vendu pour être esclave. Et puis Benjamin, c'est le petit frère de Joseph qui est aussi fils de Rachel. Et lui, il était resté avec son père au pays de Canaan. Et puis, ben, très vraisemblablement, Benjamin, c'était le chouchou de remplacement, c'était l'autre fils de la femme que Jacob aimait, le petit dernier. Et oui, donc, d'abord Joseph force ses frères à amener Benjamin avec eux la prochaine fois qu'ils reviennent. Et puis, au deuxième voyage, bon, déjà, il fait un truc marrant. Il invite tous les frères à manger avec lui. Et puis, il s'arrange pour que Benjamin ait une portion 5 fois plus grande de nourriture devant lui. Donc, en gros, il joue encore sur la corde, le petit chouchou. Et puis après, quand ils repartent, eh ben, il s'arrange pour que Benjamin soit accusé de vol. Donc il parle de le garder captif en Égypte. Et là, ben, tous les frères reviennent ensemble devant Joseph. Puis, en gros, Joseph, il s'intéresse à voir la réaction de ses frères. Il s'intéresse à voir est-ce que ils vont profiter de cette occasion pour se débarrasser aussi de Benjamin, pour revenir vers Jacob. Ah, désolé, on ne sait pas ce que Benjamin a fait, il a volé un truc, il est resté captif en Égypte, on n'a rien pu faire, et puis tout ça. Joseph s'intéresse à voir si ses frères ont toujours la même attitude qu'ils avaient quand ils l'ont vendu comme esclave. Mais là, ça se passe différemment. Il y a un des frères, Judas en l'occurrence, qui propose de rester prisonnier à la place de Benjamin parce que il sait que ça créerait beaucoup trop de douleur à Jacob si Benjamin rentrait pas avec les frères. Et Judas se dit ouais, ben peut-être que Benjamin est coupable, mais peu importe. Ça se ferait tellement de mal à mon père que je préfère rester prisonnier à sa place plutôt que de le laisser là. Et puis là, du coup, Joseph voit que les choses ont changé. Et puis c'est vrai que Joseph, il a aussi l'avantage que ses frères parlent en hébreu devant lui parce qu'ils pensent que c'est un Égyptien puis qu'il comprend rien. Mais Joseph, il voit toutes les discussions qu'il y a, donc il se rend aussi compte un peu de quel est leur état d'esprit. Donc, maintenant, je vais lire un bout dans Genèse 45, les versets 1 à 15. C'est le moment où Joseph va tomber le masque et puis se faire reconnaître. Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonna de sortir. Ainsi était-il seul avec ses frères quand il se fit reconnaître d'eux. Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent tellement saisis qu'ils furent incapables de lui répondre. « Approchez-vous de moi, » leur dit-il. Ils s'approchèrent. Joseph reprit, « C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. Il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays, mais pendant 5 années encore, on ne pourra ni labourer la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays, avant vous, pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, « Voici le message que t'adresse ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Viens chez moi sans tarder. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, et tous tes biens. Tu seras ainsi tout près de moi. Ici, je te fournirai des vivres pour toi, ta famille et tes troupeaux, afin que vous ne manquiez de rien, car il y aura encore 5 années de famine. » Et Joseph ajouta, « Vous voyez bien, et toi en particulier, Benjamin, que c'est moi qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte, et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, dépêchez-vous de l'amener ici. » Joseph se jeta au cou de Benjamin et tous deux s'embrassèrent en pleurant. Joseph pleurait aussi en embrassant ses autres frères. Alors seulement, ils osèrent lui parler. C'est un passage où on voit beaucoup d'émotions. Je crois qu'on peut déjà commencer par se mettre un petit peu à la place des frères de Joseph. Parce que ça fait un petit moment qu'ils sont en contact avec ce premier ministre d'Égypte. Et puis là, ils se rendent compte, ils savent bien qu'il tient vraiment leur vie dans leurs mains, dans ses mains, qu'il peut vraiment faire un peu ce qu'il veut. Et puis, tout à coup, ils se rendent compte que ce type-là, eh ben, c'est le frère qu'ils ont trahi, qu'ils ont vendu comme esclave. Ils pensaient qu'ils n'allaient plus jamais le revoir. Et puis maintenant, c'est lui qui est en position de les juger. Il s'en était débarrassé pour pas que ce soit lui qui domine sur eux, que ce soit lui le chef. Eh bien, maintenant, ça arrive quand même. Donc c'est vraiment une espèce de cauchemar. Et puis les frères, ils peuvent vraiment se dire que là, après le sale coup qu'ils ont joué à Joseph, ça va mal se passer pour eux. Mais ce n'est pas exactement ça la réaction de Joseph. Alors, Joseph, il reconnaît la mauvaise action de ses frères. Il nie pas le truc, il dit bien, c'est moi que vous avez vendu pour être esclave en Égypte. Mais, en fait, derrière cette mauvaise action, il reconnaît le plan de Dieu. Il reconnaît que, finalement, en cherchant à mal faire, les frères de Joseph ont quand même participé à ce que Dieu avait prévu. Et puis, Il le dit encore plus clairement dans Genèse 50 au verset 20. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Donc, Joseph a cette sagesse de reconnaître que derrière cette sale histoire de famille, il y avait la volonté de Dieu qui était à l'œuvre. Et puis, il a la sagesse aussi de ne pas profiter de cette occasion pour se venger, mais au contraire, de profiter de cette occasion pour sauver finalement toute la famille et pour accomplir ce que Dieu avait prévu. Et puis je crois que dans cette histoire, on voit une partie de la réponse à la question du mal dans notre monde. C'est là qu'on voit que les frères de Joseph, ils ont librement choisi de faire du mal. Ils ont fait une très mauvaise action. Et puis, ce n'est pas Dieu qui les a forcés à faire ça. Ils ont vraiment décidé de vendre Joseph en Égypte. Mais derrière ce mal humain, il y a la volonté de Dieu qui est plus grande et qui est plus puissante. Et puis, qui peut même utiliser le mal qu'on fait volontairement pour faire arriver ses bons plans. Et donc, ça montre que quand on décide de faire du mal, ça fait du mal, mais que quelque part Dieu est plus grand et puis peut au final faire ressortir le bien, faire ressortir sa volonté. Et puis, je crois que ça c'est un encouragement pour nous à comprendre que malgré tout le mal qui se passe, Dieu reste en contrôle. C'est encore lui qui mène les choses à leur bon terme. Et puis, pour les frères de Joseph, finalement, tout ce mal qu'ils ont fait, au final, ça permet quand même qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés de la famine. Et puis c'est aussi un paradoxe que justement ce Joseph qu'ils ont trahi, c'est finalement celui qui va leur sauver la mise, qui va les délivrer du danger auquel ils faisaient face. Et puis, je crois que cette histoire de Joseph, on peut aussi faire un parallèle avec une autre histoire, encore plus grande et plus importante. On peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé pour Jésus. Je vais lire deux passages dans les Actes pour illustrer ça. Donc dans Acte 4, de verset 27, donc c'est des chrétiens de Jérusalem qui sont en train de prier. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Donc là, on voit que Jésus a été condamné et mis à mort par une décision des puissances humaines de l'époque qui se sont mises d'accord pour faire ça et qui ont décidé de le faire. Et je crois là aussi que Dieu ne les a pas forcés à le faire, qu'elles l'ont vraiment décidé, mais que ça trouvait sa place dans le plan de Dieu. Parce qu'il fallait bien que Jésus soit condamné injustement, trahi et mis à mort pour qu'il puisse mourir pour nous et nous délivrer de nos fautes. Et donc là encore, Dieu utilise la mauvaise volonté des hommes pour amener le salut. Et puis, je lis encore dans Acte 2, les versets 36 à 38, où là c'est juste après la Pentecôte, Pierre qui s'adresse à tous les Juifs qui sont rassemblés et qui se demandent ce qui est en train de se passer. C'est la fin d'un assez grand discours où il dit « Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. » Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit : Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Puis là, je crois que les Juifs de Jérusalem, ils se retrouvent à peu près exactement dans la situation des frères de Joseph. Il y avait ce Jésus qui prétendait être le Fils de Dieu, qui prétendait être le Messie, qui se prenait vraiment pas pour n'importe qui, et puis que bien entendu, c'était inacceptable, et puis on a fait ce qu'il fallait pour se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Et puis là, tout à coup, ils se rendent compte et ils apprennent que ce Jésus, eh ben, il se retrouve vraiment dans la situation d'être le chef, d'être le Seigneur, d'être le Messie et d'être celui qui a le pouvoir de les juger. Et là, ouais, ben, quand ils disent « Frère, que faisons-nous ?» ben, c'est vraiment, ils se rendent compte qu'a priori, ils sont mal barrés, qu'ils sont fichus, que celui dont ils ont essayé de se débarrasser, c'est celui qui maintenant est le chef et puis décide de leur destinée. Mais heureusement, la suite de la réponse de Pierre, c'est que ils peuvent changer de comportement, ils peuvent se tourner vers Jésus, être sauvés et être pardonnés. Donc que ce Jésus dont ils ont voulu se débarrasser, c'est aussi celui qui peut les sauver et qui veut les sauver. C'est celui qui veut être réconcilié avec eux et qui veut le permettre d'être réconcilié avec Dieu. Que c'est lui finalement le moyen que Dieu avait prévu pour les sauver de toutes leurs fautes. Et puis je crois que c'est pas seulement la situation des Juifs de l'époque de Jésus, mais que c'est aussi la situation de l'humanité dans l'ensemble. Le Dieu qu'on a rejeté, le Dieu où on a tout fait, où on a cherché tous les moyens pour se passer de lui, pour faire sans lui, pour pas que ça soit lui notre chef, pour pas que ça soit lui qui décide de ce qu'on doit faire, eh bien, à un moment donné, on doit se rendre compte que quand même, c'est lui qui va nous juger, c'est lui qui va décider de notre destinée éternelle. Et au moment où on comprend ça, eh bien, on a de quoi trembler, parce qu'on a vraiment tout fait pour pas devoir se soucier de lui. Mais au même moment où on comprend ça, eh ben, on doit aussi comprendre que en Jésus, Dieu nous appelle à être réconciliés avec lui, et que en Jésus, au lieu de nous affirmer qu'on va être perdu, jugé et condamné, eh ben, en Jésus, Dieu nous affirme qu'on peut être réconcilié avec lui, qu'on peut être sauvé de toutes nos fautes, et puis ouais, qu'on peut vivre une nouvelle vie de liberté et de pardon devant lui. Et puis je crois que c'est ça qu'on est appelé à vivre, et c'est ça qu'on est appelé à annoncer, c'est que oui, Dieu est le Dieu souverain, le Dieu qui décide de tout et qui peut nous juger, mais que aussi, en Jésus-Christ, Dieu est le Dieu qui veut nous pardonner, qui veut nous réconcilier avec lui et qui nous appelle à vivre avec lui. Et puis je crois que c'est deux choses que je voudrais qu'on se rappelle par rapport à cette histoire de Joseph. C'est le fait que Dieu, tout en nous laissant libres, bah, est plus grand que toute la destinée humaine, que toutes les choses sordides qu'on peut faire et qu'on peut se faire les uns aux autres. Et puis aussi que Dieu est celui qui nous juge et que quoi qu'on fasse pour essayer de fuir loin de lui, on va se retrouver face à lui, confronté à lui. Mais qu'en même temps, eh ben, il veut nous sauver, nous pardonner, être réconcilié avec nous et pas nous condamner. Et ouais, ben, qu'on puisse faire pour la première fois ou toujours à nouveau ce pas, ben, de reconnaître qu'on ne peut pas fuir devant la souveraineté de Dieu, mais qu'on peut être sauvé et réconcilié avec lui. Amen.